18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Quel plaisir, on est vendredi. C'est un plaisir, vous savez, oui, un plaisir qu'on partage tous ensemble pour commenter, analyser et décrypter l'actualité, chers amis auditeurs. Eh bien, il est 18h pile et nous sommes ensemble jusqu'à 19h30. Oui, au menu, au sommaire de ce soir, avant de se retrouver en week-end, eh bien, tout simplement, nous allons retrouver Maxime. Maxime qui est un des grands leaders des Gilets jaunes, une figure emblématique, vous le savez. Il sera avec nous, ici même, en direct, pour parler de Maxime Nicole, de ce grand retour des Gilets jaunes, eh bien, dans une poignée de secondes. Ensuite, après, j'ouvrirai l'antenne, parce que je voudrais vous entendre sur, tout simplement, les hôpitaux et le naufrage des hôpitaux, paraît-il. Je parle aussi, vous savez quoi, de ces annonces d'Emmanuel Macron. On en parlera tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, pour aller se faire soigner, est-ce qu'on va devenir à l'américaine, en quelque sorte? Est-ce que ça va nous coûter de plus en plus cher? Ensuite, le face-à-face. Fawzi Alalouche, qui sera avec nous, ici même en direct, une figure aussi des Gilets jaunes, qui sera avec nous. Maître David Lebiskid, aussi, comme chaque vendredi. Eh bien, ils commenteront l'actualité sur quatre sujets qui ont retenu notre attention. Les Gilets jaunes, puisque c'est demain que ça se passe. L'éducation nationale, avec l'augmentation, la hausse des rémunérations. Les salaires, bien sûr. On parlera de la retraite, on parlera aussi des hôpitaux. Voilà ce qui vous attend au programme ce soir. Chers amis auditeurs, vous êtes de plus en plus nombreux. Et vous le savez, on ne peut être que réjouis. Voilà, c'est parti, c'est en toute liberté d'expression et partout en France.
Beurre FM, 18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Et c'est parti pour l'interview du jour, chers amis.
Les Informés, l'interview.
Et nous sommes avec Maxime Nicole. Bonsoir Maxime Nicole.
Bonsoir.
Comment allez-vous tout d'abord?
Écoutez, plutôt pas trop mal.
Activiste, bon moi je vais très bien. Toujours un plaisir de retrouver nos auditeurs partout en France qui nous écoutent et qui sont de très très nombreux. Maxime Nicole, rappelons-le, vous êtes activiste, vous êtes aussi une des principales figures justement de ce mouvement des Gilets jaunes. On a beaucoup parlé de vous, je vous remercie d'être avec nous justement en direct dans Les Informés sur Beurre FM. Maxime Nicole, on dit, paraît-il, que c'est le grand retour des Gilets jaunes demain. Est-ce que ça va marquer le retour des Gilets jaunes ou pas du tout? Qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui vous écoutent ce soir?
J'ai pas la capacité de prévoir l'avenir. On a, je pense, tous été surpris par ce qui s'est passé au début du mouvement des Gilets jaunes en novembre 2018. On voit que la colère sociale s'est pas éteinte, bien au contraire. On voit que les inégalités se creusent de plus en plus, que les gens ont une colère qui se transforme de plus en plus en rage, oui, et en incompréhension.
Oui.
Donc je vois énormément de...
Est-ce que la colère membres... est beaucoup plus importante, Maxime Nicole? Vous avez les indicateurs, justement. Est-ce qu'elle est beaucoup plus importante lorsque vous aviez démarré ce mouvement des Gilets jaunes il y a 3 ans?
Alors, je dirais que d'une certaine manière, oui, et pour une raison qui est plutôt simple, c'est que le mouvement des Gilets jaunes a touché et a été suivi par quasiment toutes les classes socioprofessionnelles. Mais la plupart des gens qui se sont, on va dire, agrégés par la suite à ce mouvement, qui faisaient partie de la classe moyenne, l'ont fait par altruisme et par volonté de lutter contre les inégalités, mais n'étaient pas forcément touchés. Alors que là, on voit qu'avec l'augmentation des matières premières, l'augmentation de l'énergie, ça touche de plus en plus une classe sociale dite médiane. Et ces gens commencent à se demander, attendez, moi je paye mes impôts, je vote, je suis un bon citoyen, et puis là on est en train de m'augmenter l'électricité par 10, on va couler mon entreprise, ça fait 15 ans que je donne corps et âme pour que ça tourne et on va tout m'arrêter, tout m'enlever.
Oui.
Comment ça se fait? Qu'est-ce que le gouvernement va faire?
Oui.
Et puis ils commencent à comprendre que le gouvernement, à part des belles paroles, des mensonges et le fait d'armer la police pour au cas où les gens arrivent dans la rue, et on les fasse taire, c'est tout ce qu'il y a comme réponse. Donc je pense que la colère,
ouais,
des gens qui ont lutté pendant 4 ans, c'était une colère saine, entre guillemets, même si les débordements, il y en a eu.
Ouais.
Mais c'est une colère saine et une volonté de changer les institutions, de mettre des contre-pouvoirs en place et de faire en sorte que la corruption s'arrête. Et aujourd'hui, on voit une partie de la population qui a... observer ça extérieurement, ouais, et qui se dit
mais on a le sentiment, Maxime Nicole, on a le sentiment que, vous savez quoi, la population, vous parlez de la population, des gens, il y a une grosse exaspération. On a le sentiment aussi que la colère s'est amplifiée, elle est beaucoup plus importante. On a le sentiment qu'elle est beaucoup plus palpable qu'il y a 3 ans, parce qu'aujourd'hui, évidemment, le contexte social, le contexte économique n'est plus du tout le même. Alors je vous pose la question, Maxime Nicole, il y a la peur, vous avez raison, je vous pose la question, Maxime Nicole, on connaît votre visage, vous êtes une des grosses figures des Gilets jaunes. Est-ce que demain, la forme va prendre une autre tournure. Je veux dire, les gilets jaunes vont prendre une autre tournure. Est-ce que vous allez emprunter un autre chemin pour exprimer votre colère ?
Moi, je pense que, vous voyez, je côtoie, je suis actuellement proche de la Savoie. Je côtoie des gens qui sont touchés de plein fouet par l'augmentation de tout ça, l'augmentation des matières premières, le fait de voir un gouvernement enchaîner les 49.3, etc. Et qui ont vu aussi les gens se faire éborgner dans la rue, se faire arracher des mains par des grenades de désencerclement, se faire mettre en prison, se faire mettre en garde à vue, se faire mettre des pressions financières avec des amendes.
Ça a marqué, hein. Ça a marqué.
Eh ben, les gens aujourd'hui se disent si je vais en manifestation, je risque de mourir ou de finir en garde à vue.
C'est ce que disaient nos auditeurs, parce que j'ai ouvert à l'antenne justement pour parler de votre manifestation de demain. Et vous savez quoi, l'ensemble des auditeurs, partout en France, qu'est-ce qu'ils ont retenu? Justement, cette crainte de se faire justement de nouveau rappeler à l'ordre par la justice, ou alors effectivement c'est
laisser ou mutiler,
oui absolument. Et Jérôme Rodriguez qui est venu à plusieurs reprises sur notre plateau nous l'a rappelé d'ailleurs, hein, avec beaucoup d'amertume.
Évidemment, il fait partie des personnes qui ont été mutilées par la police, et puis avec tout un suivi de procédures judiciaires qu'on connaît tous, avec l'inspection générale de la police nationale qui surveille la police et qui la couvre à 99% du temps. Et donc voilà, aujourd'hui, on a des gens qui ont peur d'aller en manifestation parce qu'ils savent comment l'État traite les manifestations, et puis qui savent que l'État a commandé des grenades de désencerclement à coût de millions d'euros. Là, il y a des grosses commandes qui ont été passées. Ils ont passé une commande de véhicules blindés qui ressemblent à des véhicules qui sont utilisés en République Centrafrique pour lutter contre les émeutes, et qui ont été livrés au nombre de 90 pour la gendarmerie sous le quinquennat Macron, et enfin quasiment sous le deuxième aussi, puisque c'est quelque chose de lissé. Donc on voit que l'État se prépare à des manifestations d'ampleur, à des réactions sociales d'ampleur, et prépare un dialogue qui est loin d'être celui de la discussion. Ce sera un dialogue à coup de matraque, à coup de gaz lacrymogène et à coup de répression violente, comme ils savent très bien le faire. Ils ont formé des équipes comme la BRAVEM, comme les équipes rapides d'intervention de CRS à CRS-8. Donc ils ont certainement pas envie de discuter. En tout cas, pas avec les mouvements sociaux. Ils n'ont pas non plus envie de discuter avec la population parce qu'ils agissent à coup de 49.3 et s'assoient sur la démocratie de façon complètement outrageante et publique. Ils s'en cachent même plus. Et on a de plus en plus de personnes, de toute corporation et de tout secteur socio-professionnel confondu, qui commencent à se dire si on peut pas parler avec le gouvernement, si on risque de perdre la vie, un œil, une main, ou ce qu'il y a sur notre compte bancaire en allant en manifestation, qu'est-ce qui nous reste? Parce que là, on va tout perdre. On n'a pas envie de tout perdre. Il y a eu 2 ans de Covid où on nous a privés de nos libertés. Et là, il y a toute une augmentation. Tout est en train d'exploser. Et le gouvernement va mettre quoi en place? Des numéros verts, des chèques à 100 euros à droite à gauche,
Après nous avoir dit tout ça, effectivement, donc demain, quelle tournure ça va prendre? Quelle forme, justement, marquera, justement, l'arrivée, le retour des gilets jaunes, Maxime Nicole?
Ben, je pense que moi, j'ai diffusé une liste de manifestations qui sont prévues, une liste de villes qui est mise à jour par des modérateurs qui travaillent à recenser tous les lieux de manifestation, qui c'est public sur ma page Facebook, mon compte public, pardon. Et je pense que demain il va y avoir des manifestations sur le territoire. Je pense qu'il y a des grèves qui sont en préparation aussi. Enfin, c'est pas une pensée, hein, c'est le cas. Le secteur de l'énergie appelle à faire gaffe, etc. Et je pense que ce qui va suivre dépend tout simplement de la réaction du gouvernement. Est-ce que le gouvernement va être répressif et violent dès le départ, en pensant arrêter un soulèvement de masse, auquel cas je pense que ça le déclenchera. Puisqu'effectivement les gens, s'ils se font matraquer, gazer et violenter dès le départ, ils diront ok, bah c'est effectivement plus la bonne façon de discuter avec le gouvernement, mais on va faire autrement. Et c'est là que je pense que l'exaspération, la peur de tout perdre et les personnes qui n'ont d'ailleurs plus rien à perdre passeront à des modes d'action qui seront sûrement
autrement. Ça veut dire quoi autrement?
Ben, comme je vous dis, je suis en Savoie. Quand il y a eu la campagne de rappel des armes à feu, j'ai fréquenté beaucoup de gens qui, plutôt que de les ramener, les ont planqués, par exemple.
Sur le plateau des informés, justement, Maxime Nicole, reste avec nous parce que vous les connaissez, Fawzi Lellouch, bonsoir.
Ouais, salut. Salut Maxime, petit Maxime.
Salut Fawzi.
Et Maître David Libeskind, bonsoir.
Salut Maxime.
Alors justement, Fawzi.
David Libeskind qui est un de mes avocats d'ailleurs.
Absolument.
Je salue énormément.
Vous savez que c'est un récurrent chez nous, hein. Tous les vendredis, il est à sa place ici, hein. Même place, même micro, les mêmes mimiques, les mêmes tocs. Hein. Je vous le dis tout de suite, Maxime Nicole. Je balance tout.
Et il y a John Barlow.
Fawzi Lellouch souhaite échanger avec vous justement sur ce mouvement de demain. Fawzi.
Oui.
Bon, déjà, ça me fait plaisir d'entendre ta petite voix. J'espère que tu vas bien. Si on n'y arrive pas sur Paris, on prendra le maquis en Savoie. Hein. J'invite tout le monde à aller en Savoie, là-haut, dans ta montagne. Bon, en tout cas, voilà. Bah, si ça marche pas demain, je pense qu'après, tout sera fait en cachette. Et puis, il y aura des coups d'action. Et puis, un peu comme la résistance, ça faisait. Et puis, voilà. ça risque de porter très fort. Et de toutes les façons, faut pas s'étonner à ce que demain, ils nous laissent tranquilles. Déjà par l'encadrement, on est certain que demain il va y avoir un encadrement rassurant pour les forces de l'ordre. Et vu par où j'avais déjà déposé à l'époque ce parcours-là, et il y a une place qui s'appelle la place Catalogne, qui se trouve derrière la gare, qui se trouve derrière les hôpitaux. Hein, on passe par Necker et tout ça, tous les hôpitaux qu'il y a derrière. Et c'est étroit, c'est en descente, c'est un espace creux, c'est emmuré. Donc bah là, c'est un vrai guet-apens à chaque fois pour les manifestants. Donc on va être serrés comme des sardines. Mais ce qui est important, c'est pas de faire peur, c'est de se mobiliser et de montrer justement que la seule contestation possible aujourd'hui, et Maxime, t'en es conscient aussi, ça passera que par les citoyens. Et aujourd'hui, il faut pas rejeter les gens qui viennent. Il faut pas regarder que l'autre il est syndicalisé, que l'autre il a une étiquette dans ci ou dans ça. Moi, j'en ai rien à faire. C'est l'affaire de tous les citoyens. Mmh. Et donc, c'est pour ça que Maxime, faut être solidaire.
Maxime Nicole.
De toute façon, Fawzi, sans vouloir te couper par impolitesse, mais on a eu l'occasion de militer ensemble. On a été dans les gaz ensemble. On a vu les coups de matraque pleuvoir ensemble. On est tout à fait conscient. Toi, moi, comme d'ailleurs David, qui a aussi participé aux manifestations et qui a pu sortir des gens de garde à vue parce qu'il était témoin de ce qui se passait, on sait très bien que demain, la réaction du gouvernement va énormément jouer sur la suite des choses. Alors effectivement, les gens, s'ils subissent encore une violence comme on l'a subi, depuis ces 4 dernières années, ça déclenchera des actions. Voilà, des actions sans téléphone, sans en parler sur les réseaux, ultra violentes, et qui viseront à toucher
Maxime Nicole.
Qui représente le politique.
Nicole, dites-moi, une des dernières questions, justement, on a vu circuler sur les réseaux sociaux un appel, vous savez, notamment à violenter un peu, à secouer, à en découdre avec la société. Vous répondez quoi?
Je réponds qu'il y a 3 types de violences dans la vie. La première des violences, elle est étatique, financière, psychologique et morale. Elle s'applique dans la vie des citoyens tous les jours, à peu près dans la vie de 11 millions de personnes dans ce pays, minimum. C'est ceux qui vivent en dessous du seuil de pauvreté dans notre pays qui est censé être un pays riche. Que cette violence, pour que les gens la supportent, eh ben, ils se font violence à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils vivent dans une vie de réseaux sociaux où on essaie d'étaler une vie de joie et de bonne humeur, alors que on a jamais autant vu exploser les cas de dépression, les cas de burn-out, les cas de suicide, les cas de violence conjugale, d'alcoolisme, de tout un tas de choses qui fait que ça montre un état psychologique de la société qui est en train de se dégrader à vitesse grand V. Et la troisième des violences, et bien c'est celle qui tente de mettre fin à la première quand la deuxième n'est plus suffisante pour supporter la première. Alors ça fait un peu zigzag, mais quand les gens n'arrivent plus à supporter que l'État soit violent, eh ben ils répondent à l'État par la violence qu'ils subissent tous les jours.
Ma dernière question, j'ai bien compris Maxime Nicole, les Français n'en peuvent plus, vous n'en pouvez plus, demain, quelle tonalité va-t-on, à quoi peut-on s'attendre demain, justement, durant la manifestation qui va se dérouler, à partir de quelle heure et où précisément?
Non mais déjà qu'elle ait lieu demain, c'est déjà un rapport de force avec le gouvernement qui a peur, parce qu'il sait très bien ce qu'il veut mettre en place, on sait très bien depuis 6 ans ce qu'on a vécu, et obligatoirement là aujourd'hui il essaye de faire des propositions, endormir certaines corporations, ça ne fonctionne pas, les gens n'ont plus confiance en lui, et de toutes les façons l'important c'était de montrer que la première manifestation de l'année elle venait des citoyens, et croyez-moi quand vous avez pris une claque ou un coup de poing comme ils ont pris par les gilets jaunes, ce gouvernement il n'a pas envie que ça se reproduise, il a essayé de calmer par tous les trucs,
Maxime
donc
Nicole,
c'est déjà une victoire que d'être présent demain.
Maxime Nicole, alors les rendez-vous, donnez-nous tous les détails justement demain, la tonalité. À quoi peut-on s'attendre, à quelle heure et où?
Demain, il y a des rassemblements partout sur le territoire qui sont prévus. La liste des manifestations, je ne les ai pas en tête là de mémoire, mais si vous voulez la consulter, vous pouvez aller sur ma page personnelle qui est Maxime Nicole Flyrider, où vous avez un visuel avec les villes concernées, les horaires des lieux de rencontre et les lieux de départ. Il y a Paris, il y a Toulouse, il y a de grandes villes en France où il y aura des manifestations. L'idée de ces manifestations, comme disait Fawzi, c'est de montrer au gouvernement que les coups de matraque, les coups de LBD et la violence qu'on a subie depuis 4 ans n'a en rien entaché notre volonté de récupérer notre souveraineté et de mettre fin à la corruption d'État. Et pour revenir vite fait, très rapidement, sur ce que disait Fawzi tout à l'heure et que je trouve très très important de souligner, effectivement, ça touche toutes les classes sociales. Il faut absolument comprendre que tout le monde est impacté et que si on ne fait rien, si on ne réagit pas à ces 49-3, à cette violence politique, au fait de se faire passer pour des cons à longueur de temps et de se faire jeter des miettes comme si ça allait changer nos vies, ça impacte tout le monde et ça impacte nos avenirs mais aussi l'avenir de nos enfants. Et j'invite tout le monde, toutes les corporations, toutes les classes sociales, ceux qui étaient gilets jaunes, qui ne le sont pas et qui ne veulent surtout pas l'être, à manifester leur mécontentement. Et à lutter parce que c'est très important nos institutions, il ne faut pas les laisser partir comme ça.
Maxime Nicole, un grand merci d'avoir été avec nous, notre invité aujourd'hui dans Les Informés. Je le rappelle, vous êtes activiste et une des principales figures du mouvement des Gilets jaunes. Merci d'avoir été avec nous, Maxime Nicole.
C'était un plaisir et bonne fin d'émission à vous.
Merci, on se retrouve dans une poignée de minutes. On lance avec les auditeurs justement le débat, le sujet. Je souhaiterais vous entendre réagir justement, réagir à tout ce qui est en train de se dire et notamment avec nos principales débatteurs influenceurs. Fawzi Lelouch mais également Maître David Libeskida, tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
18h23, je vais balancer à l'antenne, on est régalé, j'en mets partout. Figurez-vous que Fawzi Lelouch, bonsoir, rebonsoir Fawzi Lelouch, qui est là, il nous a régalé ce soir.
Ah, c'est clair,
il nous
c'est
a excellent. Ramené des galettes des rois, des galettes msemen et tout, la totale Fawzi, hein.
Ben c'est ça, hein, faut se faire plaisir un petit peu, hein, vu que la vie elle est tristounette.
Ben merci à toi. Merci à toi et je vous souhaite une excellente année.
Ben à tout le monde. À tout le monde et que des bonnes choses pour l'avenir.
Fawzi, il est bon. Hein. Maître David Libeskida, bonsoir.
Bonsoir, mon cher Adil.
Comment ça va ?
Ça va très bien.
Il parle la bouche pleine et tout. Non, mais ben c'est attends, bien, on est en direct.
Galette,
mais c'est bien.
Avec une galette.
Non, mais c'est bien, on va voir. En antenne, je leur ai dit, ouais, qui va être le roi ? Il m'a dit, les rois, on leur coupe la tête. Allez, j'ouvre l'antenne, je vous sollicite, chers amis auditeurs, 0153483000.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Partout en France, je voudrais vous entendre. Je veux vous entendre. Partout en France, justement, nous appelez au 01 53 48 3000. Une question que je vous pose, évidemment. Est-ce que vous comprenez la colère de Maxime Nicole, de tous les Gilets jaunes? Est-ce que vous adhérez à cette idée de, évidemment, demain la manifestation? Beaucoup, beaucoup de craintes, comme l'a rappelé Maxime Nicole. Mais est-ce que vous-même, vous êtes en colère? Je voudrais que vous, venir participer à l'antenne pour nous dire si vous, vous êtes aussi en colère. Est-ce que tout le contexte social, tout le contexte économique, chers amis auditeurs, est-ce qu'il vous rend furieux? Est-ce qu'il vous rend fatigué? Est-ce qu'il vous fragilise? Est-ce que ça vous ruine dans votre quotidien? Est-ce que ça vous fatigue? Est-ce que ça vous rend, parfois aussi, ça vous mine le moral? Je voudrais vous entendre parce que c'est très très important. Alors qu'il y en a un qui est roi, c'est John. Ça y est, John, on l'est déclaré roi. Vous lui coupez la tête ou pas? 0153 48 3000, chers amis auditeurs, partout en France, je veux vous entendre. Anthony vous accueille au standard. 01 53 48 3000. Quel est le premier auditeur? On prend le premier auditeur, justement. 01 53 48 3000. Je voudrais vous entendre. Allô, bonsoir. Tiens, je le prends en direct. Bonsoir. Allô, bonsoir.
Allô.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Allô, allô, vous avez un problème de connexion, cher ami. Je sais que c'est une voix féminine, mais allô, allô, bonsoir. Bon, eh ben, on a un problème. Il faut nous rappeler, parce que là, il y a un problème de connexion. Et effectivement, 01 53 48 3000, est-ce que, évidemment, la seule question que je vous pose, c'est est-ce que vous, comme les Gilets jaunes, vous êtes en colère? Est-ce que vous êtes furieux de votre quotidien? Est-ce que, évidemment, vous êtes dépassé par ce qui vous arrive durant ce contexte économique, ce contexte social, évidemment, qui ne favorise pas le bien-être, hein, pour équilibrer notre morale et équilibrer, si vous voulez, un certain nombre de choses. Je voudrais vous entendre, y compris discuter avec Fawzi Lelouch, qui est sur le plateau, Maître David Libeskida. Donc, on va démarrer avec Zakaria du 93. Bonsoir, Zakaria.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Zakaria?
Je suis pas SMC.
Eh bien, bienvenue. On avait Jimmy Delidou qui est le représentant CGT, justement. On vous écoute, Zakaria. Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous comprenez tout ça? Est-ce que vous-même, vous êtes furieux de tout ce qui nous entoure dans notre entourage?
Alors, pour ma part, en fait, on est furieux depuis 2018.
Oui.
Et d'un des Gilets jaunes. Mais là où je suis plus furieux, finalement, c'est contre les Français. C'est même pas contre le gouvernement, en fait. C'est qu'on a accepté des choses inacceptables. Mmh. Sans parler des différents restrictions sanitaires qu'il y a eu, etc. On a été heureux de mettre du gasoil à 2,50€.
Ça, c'est
enfin, on a vu des choses vraiment
imaginables. Oui.
On s'est battu pour mettre du gazon, on s'est même battu dans certains services. Donc finalement, ce qui met le plus en colère, c'est...
C'est vrai, Zakaria, merci de nous le rappeler. On s'est battu pour aller mettre du gasoil à 2 euros. Vous
ça
avez raison.
Planté, hein.
Fauzi, ça vous fait réagir. Hein. Et vous écoutez, Zakaria. Ouvrez le micro, s'il vous plaît, Anthony. Fauzi
ouais,
de Louche.
Bah, t'as raison, exactement. En même temps, on est responsable parce qu'on a laissé faire tout ça. Et ça fait des années qu'on a délégué le pouvoir à des gens qui ne méritaient pas de l'avoir, qui prennent des décisions pour nous et c'est nous qui payons constamment. Et les gens, si moi je suis sûr que s'ils avaient fait le gasoil ou l'essence à 5 balles, eh ben les gens, pour continuer leur petit train-train habituel, ce qu'auraient pu payer, eh ben ils se seraient bagarrés encore pour en avoir.
Zakaria ?
Eh ben, c'est exactement ça. Alors, je n'ose même pas imaginer qu'il s'agissait de nourriture. Hein. Là, je pense que ce serait des meurtres à tout voir, limite. Donc, non, moi, c'est la réaction des Français, en fait, qui m'a un peu dégoûté. Après, on a été un peu conditionné avec ça durant le Covid, où chacun
faisait la police de tout ça. Donc, finalement, Zakaria, à vous écouter parler, vous acceptez.
J'accepte quoi, exactement ?
Vous acceptez, évidemment, ce que vous subissez dans votre quotidien. C'est-à-dire qu'on dit qu'on est heureux de mettre 2 euros. On n'a pas le choix. En gros, je vous pose la question, on n'a pas le choix.
Ouais, mais c'est pas lui.
Ah, non, si, absolument. On a absolument le choix. Maintenant, je peux pas aller au bout de ma pensée parce que je risque de. Voilà quoi.
Mais, restons dans le cadre radiophonique. C'est mieux.
Dans le cadre radiophonique, je dirais que 2018, les choses ont bougé quand il y a eu de la violence, malheureusement.
Ouais.
Malheureusement. Bon, quand ça manifestait gentiment le samedi, organisé, etc. Ils prenaient les gilets jaunes pour des guignols, descendants, etc., etc. Mmh. Et quand malheureusement ça a commencé à être violent, et ben c'est là que le gouvernement a reculé. On a quand même eu des ministres qui ont fui par l'arrière de leur résidence, quoi. Donc et ça tombe là que ça a bougé. Donc quelle réponse on donne? Franchement, je vous cache pas que en fait on est ouais, c'est de la résilience finalement. Mmh. On se dit, c'est
terrible. C'est... Je voudrais vous entendre aussi, évidemment, réagir aux propos, aux témoignages de Zakaria. Merci, Zakaria, d'être intervenu. On va accueillir Benoît, qui nous appelle du 33. Quelle ville du 33, Benoît ? Bonsoir.
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 Je suis de la région bordelaise.
Bordelais, notre Bordelais. On vous écoute, il y a Maître David Libeski et Fauzi Lelouche aussi qui vous écoutent.
Oui, bonsoir. Je les connais, je les ai déjà rencontrés en manif, sur Paris et ailleurs. La question, c'est par rapport à la colère, est-ce que je suis furieux? Moi, personnellement, non, parce que la colère est mobilisatrice, mais elle n'est pas forcément une force constructrice.
Oui, oui.
Par contre, lors des mobilisations, là où je peux être en colère, c'est lorsqu'il y a trop de culture d'entre-soi au sein des militants. Ce qui empêche de faire peuple avec tout ce qu'on connaît à côté, les organes de propagande.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Souvent, on cherche à mobiliser et à regrouper les gens, mais autour d'une idéologie, autour d'un seul combat, autour d'une seule chose, sans tenir compte qu'en fait, le peuple, c'est une diversité citoyenne, il y a de tout,
oui.
Et que nous ne sommes pas en démocratie, qu'on ne changera pas un système oligarchique.
Demain vous voulez manifester ? Demain, vous manifestez demain ?
Oui, bien sûr.
Vous, oui ? Benoît, oui, vous êtes déterminé, je le sens.
Mais ça fait un petit peu plus de 20 ans que je me bats contre ce système d'asservissement destructeur.
Vous faites de la politique, vous ?
Non, je me suis jamais engagé dans des partis politiques parce que je connais les limites et limitations du système. Je fais partie de plein de mouvements, d'associations, de constituants, donc je connais très bien le RIF.
Eh bien, on vous suivra demain, on suivra évidemment ce mouvement. Paraît-il que c'est le grand retour des Gilets jaunes. On va en parler justement avec nos invités, Maître David Libeski qui est sur le plateau, et Fauzi Lelouche. Benoît, notre Bordelais, merci à vous de nous avoir appelé, Benoît.
Merci.
Je vais accueillir ensuite après Kader de Lyon. Non, il y a Jamila dans l'ordre. Jamila, je ne sais pas quelle ville. Jamila, alors j'ignore la ville. Et ensuite Kader. Et tous les autres au 0153 48 3000 et 18h30. C'est le Quoi de Neuf avec Michel.
Les informés. Le Quoi de Neuf.
Et c'est Michel Taube. Michel Taube, bonsoir.
Bonsoir, mon cher Adil. Bonsoir aux auditeurs.
Bonne année.
Et bonne année. Bonne année.
Tous mes vœux, moi aussi également. Rappelons-le, vous êtes le fondateur d'un média, un média en ligne qui s'appelle Opinion Internationale, mais vous êtes aussi éditorialiste et une personnalité aussi engagée sur les questions de société. Dites-moi, Michel Taube, vous avez décidé de consacrer votre rentrée radiophonique 2023 est synonyme pour vous de santé. On vous écoute.
Absolument. Alors justement, Je vous adresse mes meilleurs voeux de bonne santé et on en a d'autant plus besoin que le système de santé français ne va pas bien. Et en fait, voilà, aujourd'hui, le chef de l'État a rendu visite à un CHU, un centre hospitalier universitaire, pour annoncer, soi-disant, un petit peu une énième révolution dans le système de santé français. Et je dois dire que, à mon avis, je ne pense pas que son intervention du jour et les quelques annonces, finalement, pas si précises que cela, vont calmer la colère des soignants français, la colère des médecins libéraux qui manifestent, qui ont manifesté jeudi. Vous imaginez, il y a des départements entiers où les médecins, tous les médecins ont exercé leur droit de retrait, ce qui est extrêmement grave entre les fêtes de fin d'année. Je pense aux médecins dans l'Eure-et-Loire, pardon, qui ont fait ça entre les fêtes. L'hôpital qui est également étouffe et qui, dans lequel il y a d'énormes problèmes. Et je pense qu'Emmanuel Macron, il a raté en fait un rendez-vous avec la santé des Français. Il a été réélu président de la République en mai dernier, en avril dernier. Ça fait 6 mois maintenant qu'il a annoncé qu'il y aurait un Conseil national de la refondation du système de santé. Il a fait travailler des centaines d'experts depuis 6 mois, 8 mois. Il devait y avoir des annonces dans 3-4 mois. Et d'un coup, il annonce qu'il allait avancer ses décisions, c'est-à-dire aujourd'hui. Et résultat, il ne répond même pas aux attentes d'urgence de nos concitoyens soignants. Bref, il nous a fait perdre un an dans des décisions très importantes qui devaient être prises. Et dans son grand discours d'aujourd'hui, qui était annoncé notamment par Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement et ancien ministre de la Santé, comme étant un discours historique, eh ben non, on n'a pas eu un discours historique, on n'a même pas eu d'annonce précise. La demande des médecins libéraux d'avoir une augmentation du prix de la consultation, il n'y a rien de précis. Certes, il annonce un abandon du paiement à l'acte dans l'hôpital, mais quand est-ce que ça va être mis en place? Donc je pense effectivement que politiquement et en termes de réponse sanitaire aux attentes des professionnels de santé, on est en train de rater un rendez-vous. Et résultat, les appels à la grève qui se multiplient dans le système de santé vont redoubler dans les jours et dans les semaines qui viennent et risquent, à mon avis, de faire la soudure avec d'autres colères, celles des TPE, des PME, des boulangers, des brasseries, avec les gilets jaunes qui reviennent. On rentre dans une période de grande turbulence avec l'annonce aussi de la réforme des retraites qui va arriver mardi prochain. Nous entrons là, vraiment, je pense, aujourd'hui et ces jours-ci, dans une grande zone de turbulence dont
en quelques secondes, vous savez quoi, on a eu comme invité tout à l'heure Maxime Nicole, vous le connaissez, hein, Maxime Nicole, une des figures principales des Gilets jaunes, qui nous disait que les Français, justement, n'en pouvaient plus et que ça y est, la colère s'est installée dans le pays. Et vous venez de le confirmer avec votre billet,
oui,
votre édito.
Et d'ailleurs, si je peux juste ajouter un petit point qui ne concerne pas la santé, mais qui concerne les boulangers, les brasseries qui aujourd'hui sont en cessation de paiement à cause de factures d'énergie complètement délirantes. C'est exactement comme les Gilets jaunes. Pourquoi ? Parce que quand les Gilets jaunes ont démarré en novembre 2018, c'était des petits artisans, c'était des petits commerçants dans les petites villes de France qui ont fait les Gilets jaunes au début. C'était eux. Et aujourd'hui, c'est un peu les mêmes qu'on retrouve avec des factures d'électricité qu'ils ne peuvent payer. Et donc, si vous voulez, on retrouve les mêmes ingrédients. Les médecins libéraux, c'est pareil. C'est un médecin de campagne, un médecin de ville.
Absolument.
C'est comme des boulangers, c'est des personnes qui donnent leur vie à leur métier et qui n'en peuvent plus aujourd'hui. Donc il y a une colère qui est en train de s'exprimer, une colère française, comme je le dis souvent, une colère française qui est incarnée par des Français, petits artisans, petits commerçants, petits médecins, et je dis le terme petit avec beaucoup de respect et de respect, et donc c'est eux qui sont en train d'allumer la mèche. Emmanuel Macron ne leur a pas répondu aujourd'hui et c'est fort dommage.
Grand merci à vous, Michel Taube, le patron d'Opinion Internationale. Au plaisir de vous retrouver vendredi prochain.
À vendredi, merci.
Merci et bravo pour votre édito. Je lance la pub et je accueille tout de suite après Djabila et au 01 53 48 3000 et ensuite après nos deux débatteurs influenceurs. À tout de suite, ne bougez pas, restez surtout avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présenté par Adil Farkan.
18h41, justement, on va prendre encore quelques auditeurs et puis on va accueillir tout de suite le face-à-face. Allez, les auditeurs ont la parole.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Avant d'accueillir nos débatteurs influenceurs, Jamila, bonsoir Jamila. Vous nous appelez de quelle ville ? Jamila, bonsoir. Allô ? Jamila.
Ah, on n'entend pas Jamila.
Jamila, elle a un problème de connexion. Vous êtes plusieurs à avoir des problèmes de connexion, j'ai l'impression. 01 53 48 3000, le face-à-face.
Les informés. Le face-à-face.
Avec Fawzi Lelouch, justement, un des leaders, notamment des Gilets jaunes, il est avec nous. Merci d'être avec nous et bonne année. Bonsoir, Fawzi Lelouch.
Bonsoir à tous. Et puis, ça fait plaisir d'être là, comme d'habitude.
Hein. Comme d'hab. Hein.
Ouais. En tout cas, je souhaite que de bonnes choses à tout le monde et que leurs vœux soient exaucés. Et voilà, c'est souvent dans leurs mains, la main des citoyens.
Eh bien, merci pour ces vœux. Maître David Libeskind, bonsoir et bonne année.
Bonne année à vous et puis meilleurs vœux à tous les auditeurs. Surtout bonne santé, parce que ce qui est important dans la vie, c'est la santé. Parce que si on n'a pas la santé, on ne peut rien faire.
Je tousse. Non, je rigole.
Non, c'est pas amusant parce que...
Non, je sais bien, je sais bien. Il faut des gens qui sont malades, qui nous écoutent. Bonne santé.
Je
le dis, la santé avant tout, elle est essentielle. Exactement. Et elle touche tout le monde aujourd'hui.
Tout à fait.
Y compris les gamins. Messieurs, tout de suite, allez, je voudrais entamer justement ce sujet dans la continuité de ce que, évidemment, parlait tout à l'heure le témoignage de nos auditeurs. Je fais référence à cette grogne sociale, cette colère, on en parlait tout à l'heure, et Maxime Nicole en faisait référence. Est-ce que finalement, demain, marque un nouveau tournant et marque le retour, le grand retour des Gilets jaunes, Maître David Libeskind ? Oui ou non ?
Écoute, Adil, on verra. C'est deux à trois fois par an, depuis 2-3 ans, on nous annonce le retour des Gilets jaunes. Sauf que là, vu l'état économique et social du pays, hein, puisque en fait, il y a la crise de l'hôpital, inflation, augmentation à peu près de 20-30% des produits alimentaires de première nécessité, réforme des retraites, des boulangeries qui ferment, c'est quand même incroyable. Moi, je suis toujours assez surpris en fait que le gouvernement n'ait pas anticipé. Pour aider les boulangeries, c'est quand même la baguette, c'est le symbole de la France, c'est ce qui nous nourrit. Faut pas oublier
qu'elle est au patrimoine maintenant désormais la baguette.
Oui, tout à fait, l'UNESCO. Et faut pas oublier que faut rappeler au gouvernement que la Révolution française a commencé par
la baguette. Par le prix de la baguette.
Voilà, le prix de la baguette. Le pain, en fait, c'est la nourriture première, en fait, de base. Donc, en fait, il y a tout ce cumul en fait de problèmes économiques, sociaux, qui fait que
vous êtes en train de dire c'est une addition, c'est une somme
c'est
de
une addition.
Somme de
il y a
évidemment
les médecins,
de plusieurs éléments.
Il y a les médecins, mais...
Vous avez entendu Maxime Nicole tout à l'heure, il parlait d'une vraie colère.
Oui, il y a une vraie colère. Il y a une vraie colère. Après, est-ce qu'on aura la masse demain ? Est-ce que les Gilets jaunes auront la masse ? Je suis pas certain. On verra bien. C'est difficile de savoir, mais. Ce qui s'est passé là depuis ces dernières semaines sur les médias mainstream, BFM, CNews, LCI également, c'est que ils parlent que de ça en fait. Il y a plusieurs sujets, ils parlent que de ça. Surtout,
c'est important. Personne peut ignorer ce qui se passe dans ce pays. Aujourd'hui, ça y est, les gens ont fini d'espérer au changement par ces gouvernants. C'est terminé. Aujourd'hui, la réalité, elle est face à nous. Personne ne peut l'ignorer, que ce soit concernant les crises de l'énergie, que ce soit les carburants, que ce soit l'électricité, que ce soit le gaz, que ce soit, voilà, toutes ces crises qui sont devenues, rappelez-vous, on est dépendant de ces énergies. On ne peut rien faire sans ces énergies. Ils nous ont rendus dépendants. Et aujourd'hui, ils rackettent les commerçants. Là, c'est pas les gilets jaunes qui vous font fermer les boutiques. C'est la réalité, c'est le gouvernement. Donc voilà, par leurs charges, par leurs taxes, par tout ça. Après, vous avez tous les problèmes liés aux services publics, les hôpitaux. Ça va pas dans les écoles, ça va nulle part. Et en plus, il y a une crise des taxes, il y a une crise de la nourriture, il y a une crise qui va pas. Michel Taub vous l'a dit. Moi, j'ai une question à poser à Michel Taub avec le constat qu'il fait. Est-ce qu'il sera dans la rue, lui, demain ? Parce que moi, je suis un simple citoyen. OK, quand j'enfile un gilet jaune, on dit « Oui, c'est le gilet jaune. » Vous n'allez pas voir que le gilet jaune. Avant d'avoir une étiquette dans quelque chose, je suis d'abord un citoyen. Et comme j'ai vu que depuis, on l'a annoncé depuis 4 ans, personne, on peut compter sur personne pour changer notre ordinaire, notre vie, notre avenir. On a décidé de le prendre en main. Notre avenir, il est dans nos mains, dans les mains des citoyens. Pourquoi ? Parce que nous, notre intérêt, il est commun. Moi, je cherche.
Vous êtes
pas
en colère, vous, Faouzi?
Mais je suis en colère depuis 4 ans.
Depuis 4 ans,
vous êtes en colère. Et encore, je suis dirigeant associatif sur lequel, quelque part, j'ai gelé mes activités.
Sur le département du 93.
Voilà, parce qu'il n'y avait pas d'activité du tout sur mon secteur à Sevran. J'ai tout créé, des structures, j'ai tout mis en place, j'ai trouvé des financements. J'avais jusqu'à 8 salariés. Je me suis retrouvé dans le même cas qu'aujourd'hui, tous ces gens qui n'ont pas bougé, qui ont regardé passer le train. S'aperçoivent qu'aujourd'hui, ils perdent leur commerce. Et ben moi, j'ai perdu mes associations. J'apportais du travail et des services de qualité à tous les habitants et c'est pas grâce à l'État.
Et ça vous met en colère.
C'est normal. Et ça fait 4 ans qu'on le dit.
Tu avais 8 salariés, je crois.
Jusqu'à 8 salariés.
Jusqu'à 8 salariés, ouais.
Non, mais c'est beaucoup.
Les emplois aidés, donc, comme ils ont
mais tu sais, quand t'as construit ça, et tu le vois partir, je ressens exactement ce que peuvent ressentir aujourd'hui les petits artisans qui ferment la boutique.
Qu'est-ce que vous ressentez?
De la colère, du dégoût, parce que il n'y a pas de relais qui est pris. Parce que normalement, l'État, les gouvernants sont là pour protéger et les biens et la population.
Mais alors, qu'est-ce qu'ils sont devenus, vos associations, sur ce vent?
Ben,
gelées.
J'ai plus de, je sais pas, en tout, dans les deux associations, peut-être 70 000 euros de matériel. Des structures qui ferment, des gens qui ont donné du travail à des gens qui apportaient de l'aide à d'autres personnes. Eh ben, tu crois que le pain, on peut s'en passer aujourd'hui? Eh ben, admettons, il n'y ait plus de boulanger demain. Mais aujourd'hui, je connais aucune personne ici qui a été formée à faire son pain à la maison, au feu de bois, parce que l'énergie, c'est pour tout. Et on arrive avec la crise de l'eau qui va arriver. Tu sais, toi, t'es musulman, t'as vu ce qu'on dit de l'eau? Non, mais c'est vrai. L'eau, c'est la base de la vie. Et dans toutes les religions, c'est la même chose. Il n'y a pas de vie sans eau. Eh ben, la crise de l'eau, elle va s'enchaîner. Elle va s'enchaîner, c'est la même chose. Donc, ce que j'ai à dire, on est tous des citoyens. On est tous responsables. Le changement, c'est dans nos mains.
Parlons-en justement.
Alors vous avez une opportunité demain.
Alors, Faouzi Lellouche, justement, je veux qu'on se pose les bonnes questions. Demain, Maître David Libeski et Faouzi Lellouche, à quoi peut-on s'attendre? C'est quoi le mot d'ordre? C'est quoi les slogans? Manifester pourquoi? Le retour pourquoi?
Ça
pour quelle
dépend
raison
de vous.
Mais après,
ça
le
dépend
mot
pas que de nous.
Alors, le mot d'ordre.
Arrêtez de penser que les autres vont changer les choses pour vous.
Eh bien, j'attends aussi les auditeurs au 01 53 48 3000. Venez vous interpeller. Si vous avez des questions à poser à nos débatteurs influenceurs, 01 53 48 3000. Voilà, Maître Libeski.
Enfin, en fait, les mots d'ordre, c'est l'inflation, c'est le pouvoir d'achat, c'est les retraites. En fait, c'est toutes les problématiques d'aujourd'hui. En fait, la manifestation, voilà le mot d'ordre, voilà les revendications. Après, est-ce qu'il y aura du monde? Parce que c'est important. Les médias vont tous scruter la préfecture de police de Paris. Alors, ce qu'il faut dire, c'est une déclaration. On va commencer par ça. C'est une déclaration autorisée par la préfecture de police de Paris. Voilà, c'est important de le dire. Ce qui veut dire, en fin de compte, que les gens qui vont aller à cette manifestation ne seront pas amendés, ne seront pas arrêtés, ils pourront manifester en toute sécurité. Le seul problème, c'est la police. Alors, pourquoi c'est un problème? Parce que, en fait, dans les manifestations Gilets jaunes, ils ont l'habitude de faire des NAS mobiles. Ça veut dire que la manifestation suit un trajet, mais elle est encadrée sur leur côté, sur les trottoirs, par des bandes de CRS, voilà. Donc c'est pas non plus un contexte super agréable. On verra comment ça va se passer demain.
Les Black Blocs seront là?
Ah bah après les Black Blocs non, mais pas les Black Blocs en fait.
Vous dites non, mais ils ont décidé d'être là. Hein.
Ah bon, vous avez peut-être des informations.
Ah bah moi j'ai eu quelques infos. Après peut-être qu'ils seront pas là, j'en sais rien.
Après si vous voulez, bon les Black Blocs, voilà, c'est les Black Blocs. Là c'est une manifestation Gilets jaunes. Après il y a les Black Blocs qui viennent effectivement parfois dans les manifestations Gilets jaunes, mais il y a pas que les manifestations Gilets jaunes. Hein. Ils sont toujours là le 1er mai. Pour la grande marche, là, pour la fête du travail. Donc après, s'ils viennent, ben ils viennent, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Tiens,
mais les Black Blocs, je rappelle quand même, parce que bon, on a souvent l'opinion publique du fait des médias de mainstream ont une fausse image des Black Blocs. Les Black Blocs, en fait, généralement, ne sont pas violents envers les personnes. Ils sont là pour souvent violenter, si j'ose dire.
C'est le capitalisme.
Casser les symboles du capitalisme, comme les banques, les agences immobilières, etc. Alors que les policiers,
d'une
souvent,
pas
malheureusement,
je vais accueillir, une auditrice.
Les gens, malheureusement.
Je vais accueillir Fala, qui nous appelle du 95. Bonsoir, Fala.
Bonsoir.
Bonsoir, vous nous appelez de quelle ville du 95?
De là-bas. Exactement.
On vous écoute.
Non, j'ai juste dire que... j'ai écouté ce qui s'est dit. En fin de compte, on dirait que l'État, c'est l'ennemi. Alors qu'il faut trouver des solutions avec l'État. Mais les gilets jaunes ont dit qu'ils se rendent dans des syndicats.
Ouais.
Discuter des choses plus correctement et loyalement. Sinon, l'État ne peut pas tout faire. On va se retrouver dans un pays où tout est désorganisé. L'État ne peut rien faire dans ces cas-là.
Vous vous adressez à qui ? À Fawzi Lelouch ou à Maître David Libeskind ? Quand vous dites, évidemment, on dirait que l'État, c'est l'ennemi.
Non, c'est-à-dire il faut travailler avec l'État. Voilà. Moi, je m'adresse à tout le monde.
Il faut travailler avec l'État. Vous entendez ça, Fawzi Lelouch ? Merci, merci pour
c'est
votre...
Avec les syndicats. Merci. Il faut travailler avec les
avec
syndicats.
Avec les syndicats aussi.
Mais je rappelle que les syndicats, ils sont responsables depuis des décennies de la régression sociale.
Il y a un syndicat, Gilets jaunes.
Non, mais bon, on parle des syndicats représentatifs.
On parle des syndicats, voilà. CFDT, ah oui, CGT, etc. CGT.
Et puis je rappelle que, en fait,
Sud, les syndicats
ont condamné en fait, le mouvement des Gilets jaunes dès le début.
Oui.
À part le syndicat Sud.
Allez, on marque une pause et on se retrouve tout de suite après. Merci, Fala, d'être intervenu. 0153 48 3000, si vous avez des questions, si vous avez un témoignage, si vous voulez venir, n'hésitez pas, c'est ici que ça se passe, dans Les Informés sur Beurre FM. A tout de suite, on marque une courte pause.
Les Informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Les Informés avec Maître David Libeskind et enfin, Les Informés avec Fawzi Lelouch. Jingle, les auditeurs ont la parole aussi.
01 53 48 3000. Les Informés vous donnent la parole.
Et il est 18h55 si vous venez de nous retrouver. Vous venez, vous interpellez nos débatteurs, nos influenceurs. Messieurs, justement, je posais une question. Demain, est-ce qu'on va s'attendre évidemment à des mots d'ordre? Vous disiez l'inflation, vous parliez aussi des hôpitaux, vous parliez de tout cela. Mais cette colère, comment va se traduire demain?
Elle va se traduire
ensuite, après Fawzi Lelouch.
Que les gens vont marcher dans la rue, ils vont manifester, ils vont chanter, comme ils le font habituellement depuis 4 ans. Voilà, mais après, bon, il va y avoir des violences policières.
Est-ce qu'il va y avoir des roquettes ? Est-ce qu'il va y avoir des réclamations ?
Enfin, des réclamations, c'est-à-dire ?
Des roquettes au gouvernement. Roquettes, oui, est-ce qu'ils vont interpeller le gouvernement ?
Oui, mais bon, ça fait 4 ans qu'ils interpellent le gouvernement.
Oui.
Alors, le seul problème pour demain, ça va être la police, entre guillemets, je suis désolé de le dire, mais il y a certains policiers, en fait, qui sont violents, qui attisent la violence, qui rentrent dans les cortèges.
Qui cassent les cortèges,
ce qui fait qu'en fait, ça rend les manifestants furieux. Voilà, enfin, en tout cas, me concernant, c'est ma seule interrogation. Est-ce que la préfecture de police de Paris va tout faire pour casser cette manifestation, de manière à ce que les médias mainstream relaient en disant qu'il y a eu des violences à la part des manifestants, pour essayer d'écraser cette manifestation, comme ils le font d'ailleurs depuis 4 ans. Mais il n'y a pas qu'avec les gilets jaunes, il y a aussi avec les écolos, les féministes, etc. Moi, c'est ma seule interrogation. On verra. Est-ce que le nouveau préfet
vous
de
dites
police
quoi, vous
va modifier en fait sa façon de faire?
Moi, je dis que ça dépend du nombre. Voilà, la police, ça ne peut pas se permettre la même chose quand il y a du nombre. Déjà, ça, c'est une chose. Sinon, on est baladé, malgré que ça soit un cortège autorisé, déclaré et validé de tous les côtés, on est baladé comme on balade les moutons. Hein? Donc voilà, et ça énerve, ça frustre. Et foncièrement provoqué par des directives de la préfecture qui fait que les policiers en profitent pour titiller tous les manifestants, ce qui arrive toujours à une colère, qui arrive à une dégradation, et qui arrive à... Voilà. Mais moi, mon but demain, c'est pas de faire peur, c'est de dire que les choses, notre avenir peut changer que à travers nous. Il changera pas. N'attendez pas des réponses de gouvernants, d'un parti, d'un syndicaliste. C'est dans nos mains. Arrêtez de déléguer le pouvoir à des gens. Arrêtez de penser qu'ils vont faire les choses pour vous. Chacun a un intérêt qui soit financier, qui soit juste d'avoir un statut, d'avoir une fonction, d'avoir un privilège. On en a marre des privilèges, ça fait 4 ans.
Vous aviez sollicité le chef de l'État Emmanuel Macron.
Exactement.
Justement,
vous lui avez écrit un courrier,
vous et une délégation de Gilets jaunes.
Exactement, Priscilla Ludowski, Jérôme Rodriguez et Fawzi Lelouch.
Vous-même. Voilà, vous avez déjà eu un retour?
Pas de retour, mais c'est un homme qui dialogue pas.
Vous relancez,
il a du mépris pour sa population.
Vous réitérez votre demande, votre
requête. Pourquoi elle n'était pas toujours? Mais qu'est-ce qu'il va me raconter? Il aurait voulu changer quelque chose. Il l'aurait fait au quotidien. Est-ce que les choses ont changé par rapport aux problèmes de santé? Est-ce que les choses ont changé par rapport à nos problèmes de tous les jours concernant les Français? Aujourd'hui, vous allez vous retrouver au chômage. Vous êtes au chômage. Vous l'avez pas souhaité. Vous êtes au chômage. Vous perdez déjà votre emploi. Et on vous dit, il y a de l'offre d'emploi à droite à gauche. On va vous baisser de 40% vos revenus. Ah bah oui, ah bah ça va leur faire du bien à ceux qui sont chômeurs, sous prétexte de devoir accepter n'importe quel job, même si c'est pas le vôtre d'ordinaire, pour lequel vous avez été formé.
Oui.
Il vient tout sourire, alors, faire une commission de presse à l'Élysée pour accueillir les boulangers, grand sourire comme si tout va bien, je vous souhaite une bonne année.
Messieurs, il faut qu'on avance.
Non mais les gars, ils perdent leur boulot, il n'y aura pas de pain pour les gens.
Dans deux minutes, il sera 19h, il faut qu'on parle aussi, vous savez quoi, des hôpitaux. L'effondrement des hôpitaux. Moi, je fais exprès volontairement d'employer. Je vois là justement, puisqu'on, je vois que à l'hôpital Macron a été accueilli de façon évidemment pas forcément chaleureuse. On parle de centaines de morts quand même sur des brancards. Hein.
Ouais.
C'est ça. Hein, vous me confirmez.
Oui,
hein,
oui, moi je confirme.
Maître David Libeskind.
Moi je confirme.
Est-ce que non, mais là c'est explosif. Mais l'état des hôpitaux. Ça devient préoccupant.
Mais pourquoi c'est explosif ?
On est en France.
Emmanuel Macron a supprimé 17 000 lits en l'espace de 5 ans. Donc c'est normal que ce soit explosif. Comment voulez-vous que l'hôpital, en fait, puisse accueillir les gens ? Donc il ne fait pas les accueillir suffisamment parce qu'ils n'ont pas assez de lits. Donc ils les mettent dans les couloirs, dans un brancard, et vous attendez 5-6 heures.
C'est quoi ? C'est le crash sanitaire ?
C'est pas le, non, ce n'est pas forcément le crash sanitaire. Parce que apparemment, s'il y avait vraiment une augmentation des contaminations, etc., même s'ils ils en parlent, hein, je veux dire, ça fait longtemps que le gouvernement, il aura pris des mesures.
S'il avait voulu,
bah, il a annoncé voilà, des mesures. Il a annoncé
quoi,
des mesures, le chef de l'État.
Il y aura plus de soignants.
Plus de soignants.
Ouais, il y aura plus d'infirmiers.
D'ici la fin 2020.
Il y aura plus d'infirmiers, il y aura plus de médecins. C'est des bêtises, ça. Franchement. Ouais. Et puis, il faut attendre au mois de juin. Et puis quoi? Moi, j'ai entendu les médecins qui râlaient, là. Dans les autres radios, ils râlent. Ils disent, ils s'expriment. Ils disent quoi? Ils la disent, ok, c'est vrai, l'administration dans ce pays, c'est un vrai bazar, c'est lourd. Pourquoi ? Parce qu'il faut payer des gens. C'est les médecins qui vont payer...
Le médecin ici, on en a un, c'est ouais. Le docteur, pardon, Majid Soussine, il nous l'a confirmé à plusieurs reprises.
D'accord, il va devoir payer quelqu'un pour son administration en plus ?
Non, mais en tout cas, il a fait part du cri d'alarme.
Ils voudront bien qu'ils soient rémunérés.
Les médecins qui nous écoutent ce soir, ils sont les bienvenus au 01 53 48 3000. Pas que des médecins, des personnels soignants, parce que je sais qu'ils nous écoutent.
La consultation, elle sera plus chère dans la condition où tu prends plus de soins de malades. Ils en ont pas assez, les médecins. Mais moi, j'ai.
50 euros, vous êtes favorable ?
Mais c'est pas que je suis favorable. Faut payer le prix juste. Et non, il faut le nombre juste. C'est pas, et puis c'est nous qui payons, c'est nous qui remboursons la sécu, c'est l'argent des contribuables. C'est voilà, ce qu'il faut, c'est essayer de donner du travail aux gens, les payer correctement, arrêter de taxer ceux qui embauchent. Les charges sont insupportables, les artisans, les employeurs ont du mal.
Mais là on parle des hôpitaux, la santé des hôpitaux.
Non, mais c'est pareil. Non, pourquoi il y a moins de salariés dans les hôpitaux ?
Non, mais le problème de l'hôpital
parce que ça coûte cher.
Oui, parce que comme tu dis un peu.
Mais c'est pas eux qui payent, c'est nous.
Non, mais comme tu laisses entendre, Fauzi, le problème de
Maître David Libeskind,
c'est que
je sollicite nos auditeurs là, les personnels soignants s'ils nous écoutent ce soir, 01 53 48 3000, je voudrais vous entendre s'il vous plaît.
Les gouvernements successifs ont considéré qu'il fallait gérer l'hôpital comme une entreprise privée. C'est-à-dire qu'il fallait que chaque hôpital soit rentable.
Parce qu'ils veulent en arriver là.
Mais on ne peut pas gérer en fait un hôpital comme une entreprise, entreprise privée. Un hôpital a une mission de service public.
Oui.
Donc on ne prend pas en compte comme paramètre le coût, la rentabilité financière, etc. C'est explique en fait qu'ils suppriment des lits. Donc la crise de l'hôpital, en fait, s'il y a une crise de l'hôpital, ce sont les gouvernements successifs qui ont supprimé des lits.
Ça date pas d'aujourd'hui. Hein.
Ça date pas d'aujourd'hui, mais Emmanuel Macron, en fait, a aggravé la chose. Après, concernant les salaires, les salaires des infirmiers ou des infirmières, bah, c'est pareil, en fait. Ils n'ont pas été augmentés de beaucoup. Alors, il y a des promesses, toujours. Mais demandez aux soignants, en fait, qui ont travaillé comme des forcenés pendant la crise sanitaire. Demandez au personnel hospitalier cette fameuse prime qu'il avait promis. Hein, s'ils l'ont eu, parce que tout le personnel en fait qui travaillait à l'hôpital ne l'a pas eu. Voilà, y a, c'est des choses comme ça. C'est quand, je crois que c'est Fauzi qui l'a dit, on donne des miettes, on n'augmente pas les salaires, on donne des primes qui ne seront même pas calculées pour la retraite, hein, parce que bon, ce sont des fonctionnaires, enfin en tout cas dans l'hôpital public. Donc voilà, il y a tout un élément comme ça convergent qui font que l'hôpital subit une crise, et c'est d'autant plus en fait inquiétant, c'est que les étudiants, il y a beaucoup d'étudiants, ils ne veulent plus être médecins, hein, ne veulent plus être médecins. Ils ont cassé le numerus clausus à l'université pour passer, enfin pour leur permettre de passer en deuxième année. Alors tant mieux hein, pour les étudiants, on va pas non plus s'en plaindre. Mais en tout cas, les vocations, il y a de moins en moins de jeunes en fait qui veulent être médecins.
Le sont, ils vont à l'étranger. Ils ont bien raison. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent. Emmanuel Macron, son but, c'est de privatiser les services de soins. Point. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des gros groupes, on les avait dénoncés depuis 4 ans, des gros groupes qui essayent de s'accaparer par le biais d'assurances, d'investissements. Tout est à la spéculation. Oui. Voilà. Et les problèmes qu'on a d'énergie, c'est la même chose. C'est que de la spéculation. Il y a trop d'intermédiaires. Il y a des gens qui se gavent sur notre dos. Pourquoi l'esclavage moderne aujourd'hui ? L'esclavage, il a été aboli il y a des années. On voudrait nous rendre comme des esclaves, acceptant. Vous avez un petit travail, vous avez un petit logement, prenez ce qu'on vous donne et taisez-vous. Et eux, ils continuent à se remplir le ventre. Eh ben, on le dénonce. Voilà. Et ça, c'est à la charge des citoyens à dire non, parce que c'est la seule opposition possible aujourd'hui. Ne comptez pas sur les autres. Et moi, j'appelle dès demain, si vous avez la possibilité de venir manifester à Paris, pourquoi Paris ?
Alors où à Paris ?
À Paris, c'est Place Breteuil. À partir de 14h, le départ du cortège, c'est 14h. Vous pouvez y aller à partir de 11h ou midi. Il y aura du monde qui vous attend. Et je tiens à vous dire que demain, ce qui est important, c'est de montrer de la force. Parce que s'il n'y a pas de rapport de force, rien ne changera. Et je peux vous dire qu'avec la résonance qu'il y a eu sur les réseaux, les médias mainstream qui étonnamment ont relayé, parce que eux aussi sont avant tout des citoyens et ils comprennent que derrière ils en ont marre, qu'il y a quelque chose qui va se passer, le cumul de toutes ces problématiques sociétales fait qu'aujourd'hui on ne peut plus accepter les conditions de vie de cette société de la manière qu'on vit. Il y a des richesses, on se demande avec quoi, qu'est-ce qu'ils font avec tout cet argent qu'ils nous prennent. En tout cas, ce qu'on est sûr, c'est qu'il est mal géré. Et au lieu de prendre soin des biens et des personnes, Emmanuel Macron et son gouvernement font tout le contraire. Ils le méprisent, ils n'écoutent personne, ils dialoguent avec personne, ils prennent ses décisions pour le capitalisme, c'est-à-dire à l'encontre de l'intérêt du citoyen. Normalement,
je voudrais vous entendre, les auditeurs, justement partout en France. Je sollicite nos auditeurs, 0153483000, notamment le personnel soignant, s'ils nous écoutent ce soir, parce que je sais aussi ils sont très très nombreux. Venez intervenir et nous livrer votre témoignage, 0153483000. Les mesures concrètes, clairement, que propose Emmanuel Macron concernant cette crise des hôpitaux, la crise de l'hôpital justement, est-ce que vous les trouvez à la hauteur, évidemment, ou pas du tout, maître David Libeskind, clairement?
Non, elles ne sont pas du tout à la hauteur.
C'est
de la mesurette. C'est comme les mesures qu'il a proposées pour les boulangers, si j'ose dire. En tout cas, moi, je me fie en fait à ce que pense le personnel soignant. Et de toute façon, tout le personnel soignant en fait considère que ces mesures sont nettement, mais vraiment très nettement insuffisantes.
On s'oriente vers une autre crise, donc.
Bah, la crise d'hôpital, de toute façon, elle existe depuis longtemps. Elle s'est aggravée, en fait, avec le Covid. Parce que là, en fait, ils se sont aperçus, en fin de compte, qu'il y avait un problème dans l'hôpital. Mais voilà, depuis des décennies, puisque, comme j'ai indiqué, ils suppriment des lits.
Nina nous appelle du 95. Quelle ville du 95, Nina?
On va bourser normal.
Pardon? Allô?
Nina.
Colombes?
Non, c'est 92. 13, non, c'est
92. J'ai pas compris, Nina, vous avez un problème de connexion. Je sais pas ce qui se passe avec vos portables, mais on a un problème de connexion. On a des problèmes. Nina, rappelez-nous, parce qu'on a... j'aime bien. Nina, on a un problème avec votre connexion, donc essayez de nous rappeler, parce qu'on vous entend pas du tout. Hein. 0153483000 et tous les autres, justement. Fawzi Lelouch, justement, les mesures proposées par Emmanuel Macron, le chef de l'État, est-ce qu'elles sont à la hauteur ou est-ce qu'on peut s'attendre désormais à une crise dans la crise ?
Alors déjà qu'il y avait une défiance de cette gouvernance, défiance des institutions, eh ben alors là, je peux vous dire que... les médecins, ils sont intelligents, ils ont fait des études. Les infirmières aussi.
Bah, 8 ans en avant.
Ils sont pas bêtes.
Pour les médecins.
Ils sont pas bêtes pour accepter n'importe quoi. Ils en ont marre de se laisser endormir. Et encore, les mesures, il faut qu'ils patientent jusqu'au mois de juin. Donc c'est bien beau. Et avant de construire des choses autour des hôpitaux pour loger les gens, les personnels soignants, ça va prendre combien d'années ? Tout ça, c'est de la...
C'est vrai, ce qui a fragilisé notamment les hôpitaux, c'est ce qu'a rappelé tout à l'heure maître David Libeskind, c'est-à-dire les fameux 17 et 18 000 lits qui ont été supprimés. Nina, on vous a retrouvé, on vous a récupéré, Nina. Bonsoir, Nina. Rebonsoir.
Rebonsoir.
Vous nous appelez de quelle ville, Nina ?
Ben moi, allez, on va dire la vraie ville, Argenteuil.
Argenteuil. Eh ben voilà, le Fawzi Lelouch est né à Argenteuil, justement. Nina, on vous écoute.
Ben écoutez, moi, je suis tout à fait d'accord sur ce qu'il y a une crise de tout ce qui est santé publique.
Oui.
dans les hôpitaux. Moi-même, j'ai fait l'expérience. Aujourd'hui, je pense que je ne serai pas parmi vous aujourd'hui. J'ai été atteinte, par exemple, d'un cancer de poumon qui était très prononcé. Mmh. J'ai été à l'hôpital d'Argenteuil en urgence. Ils m'ont sorti avec Doliprane. Mmh. Le dimanche, j'ai été à Levallois, qu'à Notre-Dame-des-Landes, ou je ne sais pas quoi, comment on appelle ça, pareil, rebelote. Le lundi, mardi, impossible de me lever. J'ai décidé d'aller à l'hôpital américain. Et grâce à l'hôpital américain, pendant 3 semaines, ils ont détecté que j'avais un cancer trop prononcé. Il faut en urgence se faire opérer. Du coup, j'ai été, parce que je n'avais pas les moyens, c'est normal. Et on m'a envoyé à l'hôpital Gustave Roussy. Gustave Roussy m'a envoyé à Marie-Lanne-Langue et tout ça toute seule. Attention, hein. Donc, voilà. Et j'ai été prise en charge. J'ai été sauvée. À partir de là, j'ai commencé à prendre conscience qu'il y a un manque réel et de l'écoute, et surtout l'écoute, hein, du personnel. Par exemple, l'hôpital d'Argenteuil, moi, j'y vais rarement. Récemment, j'ai été frappée par le Covid il y a 3 semaines. J'ai mis 3 semaines, c'est ma 4e semaine, sortir de chez moi et tout. Le SOS médecin n'a pas souhaité m'envoyer à l'hôpital d'Argenteuil parce que c'est déjà plein à craquer. Et en plus, comme je suis covidée, ils préfèrent ne pas m'envoyer là-bas. Et ils ont enfin ouvert une permanence sur Orgemont. Et qu'on peut y aller en prenant un taxi ou par soi-même.
Messieurs, Nina, justement, attendez, je voudrais que nos débatteurs influenceurs réagissent. Ça interpelle quand même, hein, Maître David Libeski, des fois aussi Lelouch, ce que dit Nina.
Moi, ça m'interpelle parce qu'en fait...
C'est quand même préoccupant, quand même.
Quand elle parle de l'hôpital américain, je pense que c'est l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine.
Ouais.
C'est l'hôpital pour les riches, les chefs d'État étrangers, etc.
Ah, mais elle a été malgré elle, vous l'a dit, Nina.
Oui,
c'est
mais...
ça, Nina.
Oui, mais c'est inquiétant.
C'est inquiétant.
Ça veut dire que faut...
Elle a dit sans moyens, sans rien.
Ouais, mais ça veut dire, en fin de compte, que quand on est malade, en fait, il faut aller dans les hôpitaux. Parce que, alors, je rappelle à ceux qui...
Faut aller dans le privé.
On est dans le purement privé, l'hôpital.
Ah non, mais l'hôpital américain, c'est le... En plus. Excessif, hein, c'est très cher.
Oui, tout à fait.
C'est pas accessible à tout le monde. Hein.
Mais c'est malheureux qu'on soit obligé d'aller là-bas, en fin de compte. Parce que quand vous allez là-bas, effectivement, ils vous dirigent quand même vers des services, parce qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis de vous. Bon, moi, vous êtes pris en charge, même si ensuite vous ne restez pas dans l'hôpital américain, ils vous envoient dans d'autres hôpitaux. Mais c'est quand même gravissime ce qui se passe.
Ça interpelle, moi, le témoignage de Nina.
Mais 100 personnes qui sont décédées sur des brancards.
C'est très préoccupant.
Surtout dans la condition de malade. Faire toutes ces démarches, tous ces va-et-vient, sans savoir l'inquiétude, le doute, pas savoir si elle va pouvoir se soigner, se retrouver baladée, franchement, c'est catastrophique.
Ben moi, j'ai qu'une chose à vous dire, je ne sais pas, Nina, et vous, ben ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut avoir de l'argent pour se faire soigner.
Mais c'est exactement,
donc, c'est le système à l'américaine.
C'est de l'injustice.
C'est ça, Nina ?
Exactement.
Bah, en fait,
c'est
oui,
le système à l'américaine. Vous avez de l'argent,
en fait, moi,
vous soignez, vous n'avez pas d'argent, et ben, vous y passez, en fait, en quelque sorte, entre guillemets.
Allô?
Oui, je vous écoute.
Je prends la... En fait, par dans ma santé, et vous savez que pour les radios, quand c'est précis, que j'ai rendez-vous avec les cancérologues, j'y vais soit aussi à la clinique Bizet, qui était pas mal au début,
ah,
et que maintenant, ça s'est un petit peu dégradé. Parce que la clinique Bizet aussi, en ce qui concerne la radio et tout, c'est nickel, c'est propre, c'est bien attentionné, il n'y a pas de souci. Mais ça se dégrade petit à petit. Et par exemple, récemment, j'ai été voir un chirurgien qui m'a opéré pour connaître pourquoi j'ai toujours ces douleurs au bout de 4 ans et demi d'opération, parce que je fais toujours de la kiné respi. Vous savez combien j'ai attendu alors que je n'étais pas bien?
Oui.
1 heure et demie d'attente, juste pour savoir pourquoi j'ai ces douleurs, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'opération. Est-ce qu'il a mis, il a cousu l'intérieur avec des fils? Et quand je lui ai dit, 1 heure et demie d'attente, pour 5 minutes, vous m'envoyez comme ça, alors qu'il a, j'ai même pas fini d'étaler ce que j'ai fait pendant 4 ans, pourquoi j'ai ces douleurs, comment j'ai fait pour en arriver là. Je me suis levée en pleurs, j'ai dit c'est pas normal. Il m'a dit oui, mais bon, c'est comme ça, il y a trop de monde. J'ai dit non, c'est pas comme ça. J'ai même pas fini de vous expliquer les trucs. Et finalement, j'ai obtenu la réponse que je voulais. Mais c'est normal, c'est plus le fil avec lequel on coud maintenant l'intérieur quand il y a des grosses opérations comme la vôtre, mais vous avez des chaînettes métalliques. Ah putain, ah, je me suis écroulée de pleurs, je rangeais mes affaires et tout.
Merci Nina pour ce témoignage. Hein.
Ouais, puis, alors, c'est pareil,
Maître David Libeskid.
En fait, parmi les mesures, il veut en fait développer les consultations des médecins à distance. comme on a fait ça pendant la crise Covid. Mais comment? Comment peut-on m'expliquer qu'un médecin peut vous consulter à distance sans vous ausculter? Voilà. J'aimerais bien qu'on me...
C'est vrai.
Pendant la crise Covid, ça pouvait se justifier. Ça, bon.
Mais là?
Mais là, franchement.
Oui. Oui, oui, oui. Nina, merci Nina d'être intervenue. Ça m'interpelle quand même.
Ouais,
01-53-48-3000, si vous avez des témoignages, vous êtes les bienvenus.
Une perte d'humanisme, dans la santé.
Oui.
Il n'y a plus le rapport humain
là,
parce qu'il
y
a
plus... Hein.
Comment ?
Effectivement.
Il y a un problème d'équité, il y a un problème de sentiment humain. On a l'impression qu'il n'y a plus ça. Il n'y a que qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a ? Voilà, et ça dérange personne. Et celui qui est riche, eh ben, il va pouvoir toujours s'en sortir. Et ceux qui prennent des décisions pour nous, ils n'ont pas de problème d'argent. Moi, j'ai vu autour de moi, là où j'habite, à Sevran, des gens.
Est-ce qu'on est en train de perdre notre système du service public des hôpitaux ? C'est ça, messieurs, la vraie question.
Mais on le dénonce depuis combien de temps ? On le sait très bien. Tous nos acquis sociaux partent en fumée.
Désormais, peut-être, comme dit Fawzi Lelouch, il va falloir être riche pour se soigner. On marque une pause et on se retrouve tout de suite après pour la dernière ligne droite. A tout de suite, vous pouvez nous appeler. A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
Dernière ligne droite, que le temps file. Ici aux informés avec Maître David Limeski et enfin avec Fawzi Lelouch. 01-53-48-3000, chers amis auditeurs, nous allons aller direction Rouen, où nous allons accueillir Sylvie.
01-53-48-3000. Les informés vous donnent la parole.
Sylvie, bonsoir Sylvie.
Oui, bonsoir. Alors c'est très inquiétant ce qu'on vient d'entendre sur Rouen.
Un plaisir, ma chère Sylvie. Hein.
Merci. Hein. on est vraiment très heureux d'apprendre tout ça. C'est vrai qu'on est de moins en moins accompagnés, de moins en moins bien reçus, tout ça dans les hôpitaux publics aussi. Par exemple, moi, ça fait quelque temps, j'étais avec un petit, mon petit-fils. Mmh. On est arrivé la nuit, le petit vomissait, tout ça.
Oui.
Et on a eu du mal, on ne peut pas rentrer, ce n'est pas accessible pour se garer, tout ça. On s'est garé loin, après on portait le petit. Après, on a eu du mal à trouver les urgences, l'hôpital public. Hein.
Oui.
Et ensuite, après, sur le comptoir, c'était annoncé 5 heures d'attente.
Voilà. Eh bien, David,
c'est préoccupant pour tout le monde.
Préoccupant. Vous entendez là, oui. Les témoignages qui défilent là, ouais.
Non, mais John parle pour son petit,
c'est un
ouais. Maître David Limeskid.
Mais non, mais c'est dramatique. Moi-même, bon, il y a quelques années, en 2016, mon père a été hospitalisé. Pareil, on a quasiment attendu presque toute la nuit. Mmh. Et là, John Barlow, là, qui est ici sur ce plateau, parlait en fait de son fils. Et il a attendu, pareil, 7h30. Quoi.
7h30. Sylvie, vous, 5h.
Hein. Oui, mais voilà.
Non,
oui.
Oui, c'est peut-être les urgences vitales, ils vont peut-être les prendre tout de suite, j'espère, mais voilà.
Et c'est payant maintenant, les urgences.
On
ne peut
pas examiner tout de suite.
Vous
hein,
savez
donc,
ça, ouais.
Donc on attend avec les enfants comme ça dans les bras, c'est vraiment... On est mal accueillis, tout ça, c'est délicat.
Après,
vous avez témoigné aussi sur les soins dentaires, parce que moi, on m'a mis des trucs dans la bouche, et je me suis aperçue après, quand ça a tombé, les bridges. On peut vous mettre des trucs dans la bouche
de
et
qualité,
on ne sait pas ce qu'on a en fait.
Oh là,
on sait ce qu'on a quand ça tombe.
Bon. Après voilà. quand vous dites que vous êtes mal accueilli, faut comprendre que le personnel de l'hôpital est complètement stressé, ils sont débordés. Donc,
Non mais il y a un dysfonctionnement général. Il y a un dysfonctionnement général. Alors il y a des choses qu'on souhaite toujours pour le nouvel an, c'est avant tout la santé. Et on sait combien ça touche tout le monde. Donc tout le monde est concerné.
Ça devient très préoccupant.
Voilà, et on sait
que l'accès aux urgences, il n'est pas facilité. Vous voyez, nous, on avait le petit dans les bras, la voiture était garée très loin, tout ça. Et après, pour trouver, l'hôpital pédiatrique ne nous a pas reçus, donc il fallait comprendre qu'il fallait aller aux urgences ailleurs, tout ça. C'est compliqué, on a le temps de... Voilà.
Mais
c'est pas normal qu'un hôpital.
Mais oui, c'est pas normal et ça touche tout le monde et à n'importe quand, on sait pas quand ça peut nous toucher. Et on est tous concernés. Mais ce que je voudrais dire, ce qui est important, c'est que si le gouvernement avait voulu faire quelque chose, il l'aurait fait. Donc, c'est qu'il ne veut pas. Pourquoi ? Parce qu'il s'est aperçu, il veut vendre notre capital, nos biens communs. Il veut vendre tout ce qui est, tout ce qui fonctionne, le privatiser et faire de l'argent. Tout n'est pas une question d'argent. Il y a une question de morale, il y a une question d'humanisme, il y a une question
de... Oui, ils le disent quand même, parce qu'il y a une partie du gouvernement qui parle, mais il parle, mais ne fait rien. Voilà,
oui, mais c'est
le
problème. Ils ne font rien parce qu'ils ont un chef qui leur dit de ne rien faire. C'est une question de volonté. Et, oui. Et vous savez, regardez, je vais vous prendre un exemple qui fonctionne. Vous avez les péages. On a financé les péages. Au début, on nous disait c'était pour payer une partie des retraites, machin. Après, ça a été l'accoutumance. On a toujours payé les péages. Et on nous disait que ça revenait trop cher de les entretenir. Ils les ont vendus. C'est devenu privatisé. Aujourd'hui, ils font de l'argent de fou qui pourrait financer tous nos services sociaux. Eh ben, ça veut dire que si c'est privatisé, ça fonctionne. Ça veut dire qu'on est gouverné par des incompétents. Si des sociétés, des gens...
Ça n'engage que vous, Fawzi Lelouch.
Vous pouvez m'engager sur ça, parce que moi, j'ai peut-être pas la compétence
de... Non, moi, je suis pas d'accord. Oui, voilà, on n'est pas d'accord avec ça. Ça fonctionne, mais parce que le gouvernement
ne donne pas les moyens. Non, j'ai aucune crainte ici. Vraiment une liberté d'expression. Non, non, c'est que je dis... Quand il dit ça, c'est...
Mais je l'assume, parce que demain, vous n'arrivez pas...
Il ne restitue pas ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est notre argent, c'est l'argent public, en fait.
Exactement, c'est l'argent public.
Et moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut... Il faut, si on va dans la rue, il faut demander aussi l'égalité des salaires.
Mais bien sûr,
abaisser les salaires élevés,
vous le demandez.
Voilà,
l'égalité
c'est ça qu'il faut dire, parce qu'il y en a marre.
Sylvie, il l'a noté, Fawzi Lelouch, demain, il va le faire.
Je vous remercie parce que j'en ai déjà trop dit. Et je vais insister sur la psychiatrie.
Merci à vous et merci pour votre fidélité.
J'aimerais juste dire...
Fadila, je veux continuer d'accueillir les auditeurs si vous voulez bien.
Oui, bonsoir, excusez-moi.
Vous nous appelez de quelle ville, Fadila? Vous en avez beaucoup d'appels. Hein.
De Limoges, du 87.
Limoges, on vous écoute. Il y a Fawzi Lelouch et Maître David Lebeskid qui vous écoutent. Allez-y.
Oui, je voulais témoigner parce que actuellement, je suis élève aide-soignante. Je suis en reconversion professionnelle. Et je voulais donner mon point de vue, ayant vécu de l'intérieur mes stages. Et... pour vous dire, c'est tellement difficile que ça en devient décourageant. Et par exemple, sur ma promo, au départ, nous étions 130, donc on a intégré la promotion en septembre, et actuellement, on n'est plus que 95, pour vous dire. Non pas que le programme en lui-même est difficile, mais en toute honnêteté, je trouve qu'il y a un mal-être au niveau du personnel des établissements, que ce soit public ou privé.
Bah oui.
Moi, ce que j'ai trouvé le plus choquant, c'est qu'elles ont un pouvoir de démotiver, de mettre l'élève, le stagiaire, l'étudiant en doute, que déjà ça met des arrêts à certaines vocations, des arrêts précoces, et c'est là déjà. Où je me suis inquiétée,
Fadila, la maître Libeskid.
Vous dites que vous êtes
rapidement, parce qu'on arrive à la fin de cette émission.
130 à 75 ou 95, ouais, 95. Pardon. Mais c'est dû à quoi
Maître David Libeskid vous dit, c'est dû à quoi?
C'est une perte de motivation, mais comme vous dites, le programme est bien, la formation est bien, les équipements pédagogiques sont bien. Mais je pense qu'ils se sont heurtés à la dure réalité du monde du travail.
D'accord.
Et pour moi, c'est le personnel qui est en mal-être. Parce que honnêtement, les structures où je suis allée jusqu'à présent, il n'y a pas de manque de moyens.
Merci.
Il y a une revalorisation du salaire. Honnêtement, je pense que c'est un mal-être du personnel. Après tout, ça vient.
C'est l'école.
Merci, Fadila. Fadila, merci à vous. Merci à vous, parce qu'on arrive au terme de cette émission. Merci, Fadila, pour ce témoignage. Évidemment, Fadila est en train de lancer un cri d'alarme. Ça sous-entend quoi?
Oui, parce que le protocole de soins et les contraintes qu'il peut y avoir à pouvoir exercer ce métier sont laborieuses, sont contraignantes. Et donc, qui sait déjà, si je te demande, est-ce que tu as envie de remettre ton masque? Déjà, ça te fatigue. Si en plus, tu es obligé d'attendre dans une pièce et de ne pas pouvoir recevoir les gens et de les voir dans la détresse et de voir que les malades sont maltraités. Mais franchement, donc ça dissuade 35 personnes sur 130 ont déjà pas fini la formation. Et j'aimerais dire un mot, quelque chose, pour dire à quel point ça va mal. On a des gens qui sont formés, qui sont disponibles. Par l'orgueil et par l'orgueil de ce gouvernement et d'Emmanuel Macron qui ne veut pas discuter, qui ne veut pas céder, nous avons la possibilité... Aujourd'hui, c'est le seul pays à réintégrer des soignants qui sont diplômés, qui sont opérationnels, qui sont prêts à travailler, et il ne veut pas les réintégrer. Pourquoi? Par orgueil. Eh ben, on nous marche sur la tête parce que ça a contresens des besoins.
Alors que l'Italie l'a fait. Hein.
Parce que rappelez-vous,
l'Italie et l'Espagne, il me semble aussi.
Qu'une personne soit vaccinée ou pas, en attendant, quand on porte soin auprès de quelqu'un, c'est toujours un peu d'humanisme quand on ne peut pas le faire.
On a une grosse réserve de personnel motivé, de soignants, d'infirmières et même de médecins qui ont été suspendus et on ne comprend pas pourquoi en fait le gouvernement ne veut pas les réintégrer, sauf par amour propre, parce que ces personnels ont refusé en fait de se faire vacciner.
Merci monsieur, merci Fawzi Lelouch, bonne manifestation, à demain.
Ah bah avec plaisir.
Merci
avec
à plaisir. Vous.
Alors demain c'est une libération que de pouvoir.
On reviendra
s'exprimer.
Lundi sur le sujet. On reviendra. Maître David Libeskind, merci.
À vendredi.
La présence aussi de John, merci à John. À la réalisation c'était Anthony, merci aussi à tous ces nombreux auditeurs. Ils sont grave nombreux, franchement.
Ah, c'est bien. Ouais.
On les remercie infiniment. Bilal Lehmann, il arrive pour 20h jusqu'à 21h. Ensuite, Vanessa, de 21h à 23h. Moi, il me reste à vous souhaiter un excellent week-end. Prenez soin de vous. On reviendra sur la manifestation de samedi, lundi. Peut-être, Fawzi, je vous appellerai par téléphone, notamment.
Avec plaisir.
Oui, hein, pour vous faire part un petit peu de votre, du retour. Mais surtout, qu'est-ce qu'on fait ?
On lâche rien.
On lâche rien, messieurs. Bon week-end à lundi.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.